RCF. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question du partage de la valeur ajoutée, équilibrer l'équation économique. C'est vraiment la question que l'on se pose particulièrement dans l'économie mondiale. Cette question est complexe, elle est même cruciale. Comment répartir équitablement la valeur entre les différentes parties prenantes? Le concept de partage de la valeur ajoutée est au cœur de notre émission car elle soulève des enjeux essentiels à la fois de justice sociale, de compétitivité économique et de durabilité à long terme. Alors d'un côté, les entreprises génèrent de la richesse grâce à leur activité économique, à travers les productions de biens et de services. Cette richesse, elle est exprimée sous forme de valeur ajoutée qui provient du travail des employés, de l'utilisation des ressources naturelles, des investissement en capital et de l'innovation. Cependant, la manière dont cette valeur est distribuée entre les actionnaires, les salariés et d'autres parties prenantes est un sujet de débat constant. Cependant, trouver le juste équilibre dans le partage de la valeur ajoutée n'est pas une tâche facile. Les entreprises doivent jongler avec diverses pressions, notamment la concurrence mondiale, les fluctuations de marché, les demandes des investisseurs, les attentes de la société en matière de responsabilité sociale des entreprises. Et pour relever ce défi, une approche holistique et collaborative est nécessaire. Le gouvernement, les entreprises, la société civile, le monde économiques doivent travailler ensemble pour créer un cadre réglementaire et des incitations qui encouragent un partage équitable de la valeur ajoutée. Cela pourrait inclure des politiques fiscales progressives, des normes de rémunération éthique, des investissements dans l'éducation et la formation, ainsi que des incitations à l'innovation et à la durabilité. En fin de compte, le partage de la valeur ajoutée ne se résume pas donc à une simple question de chiffres, mais reflète les valeurs et les priorités d'une société. En adoptant une approche équilibrée et inclusive, nous pouvons créer une économie plus juste, plus fraternelle, résiliente et prospère pour tous. Waouh ! Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Cette semaine, on va évoquer plusieurs sujets assez en lien les uns avec les autres. On va d'abord évoquer l'économie sociale et solidaire avec notre invité éco, Benoît Hamon, qui vient d'être élu président de SS France. On verra quelle est sa feuille de route pour les années à venir. Avec notre invité du dossier de l'écho des solutions, Erel Thévenon, on évoquera la question de du partage de la valeur ajoutée, trois pistes pour sortir d'un débat mal posé. C'est un livre qu'elle vient de publier avec son compère Richard Robert au PUF, aux Presses Unitaires de France. 7 minutes pour changer le monde, on ira rencontrer l'Impact Tank. L'Impact Tank a tenu son sommet le 18 avril dernier au Conseil économique, social et environnemental à Paris. On verra en quoi ce sommet va peut-être changer la donne sur le développement durable des territoires. Et puis bien évidemment, notre chronique avec Nicolas Masson et les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bref, vous avez le programme, on commence tout de suite avec l'invité éco de cette semaine.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis avec mon invité éco de cette semaine. Il s'agit de Benoît Hamon. Benoît Hamon, nouveau président d'ESS France. Il prend la suite de Jérôme Sadier, qui intervenait de manière régulière sur notre émission. Rappelons que l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, c'est 2,6 millions d'emplois. C'est 14% de l'emploi privé, 10% de l'emploi en France. C'est 155 000 entreprises, associations dans tous les secteurs avec une grande part quand même pour le social. Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez donc de prendre la présidence, vous venez donc d'être élu président de SS France puisque la prise de fonction se fera le 12 juin prochain lors du prochain conseil d'administration. Vous êtes à l'origine de la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire qui fête ses 10 ans. Donc j'ai envie de vous souhaiter un bon anniversaire, Benoît Hamon.
Merci pour eux, surtout.
Quel regard vous portez justement? Alors on va peut-être pas faire le bilan des 10 ans de la loi ESS, on le fera dans une autre émission courant juin justement. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur l'économie sociale et solidaire au début de ce mandat que vous avez accepté et pour lequel les adhérents vous ont élu, Benoît Hamon?
Bon, alors d'abord, je vous renouvelle mes remerciements pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir en quelque sorte inaugurer cette nouvelle responsabilité chez vous. En quelques mots sur l'économie sociale et solidaire, vous en avez donné les principales données en termes d'emploi, de contribution au PIB. Ce qui, je crois, manque aujourd'hui dans la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, c'est la valeur réelle de sa contribution à la richesse ou aux richesses en France. Et quand je dis aux richesses, c'est que je n'entends pas la richesse seulement par
la richesse économique et la part de PIB,
mais en termes de contribution sociale, de création de liens sociaux, de contribution démocratique, il y a indiscutablement une contribution de l'économie sociale et solidaire qui nourrit la cohésion sociale dans ce pays, les solidarités intergénérationnelles, les solidarités entre les personnes, qui n'est mesurée nulle part. Et je pense qu'une des premières tâches qui m'incombera comme au futur conseil d'administration de SS France, c'est de faire en sorte que les indicateurs de richesse évoluent beaucoup plus vite. On a besoin de les faire évoluer, ne serait-ce que pour appréhender le défi de la sobriété et de la lutte contre le dérèglement climatique. Mais plus généralement, il y a quelque chose d'assez aberrant à imaginer aujourd'hui en France que la question, par exemple, de la lutte contre la pauvreté ne soit pas un des indicateurs à partir desquels on mesure une bonne ou une mauvaise politique. Mmh. On va évaluer le nombre d'emplois concrets, le nombre de déciles de points de PIB qu'une loi va produire. On ne va pas évaluer son impact social ou son impact écologique. Donc, il faut changer les indicateurs de richesse et ça aiderait sans doute, indiscutablement même, valoriser ce qu'est la contribution de l'ESS.
Alors, est-ce que c'est pour ça que l'ESS, on a du mal à l'avoir au centre du débat aujourd'hui? C'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire rouspètent régulièrement à la formation des nouveaux gouvernements pour savoir où va se trouver justement l'économie sociale et solidaire. Ce que vous venez de dire, c'est la raison pour laquelle finalement les politiques ne s'y intéressent pas ou s'y intéressent peu ou ne la mettent que peu en évidence dans les stratégies de développement économique, social, environnemental de nos politiques publiques.
Bah, je pense que c'est d'abord le résultat d'une culture économique. Il y a une culture économique dominante, on va dire, dans à peu près tous les pays du monde, qui veut que, par exemple, le pouvoir dans l'entreprise soit corrélé au montant d'argent qu'on y a investi. C'est comme ça que ça fonctionne dans la plupart des entreprises, c'est que vous aurez d'autant plus de pouvoir que dans une entreprise que vous aurez investi d'autant plus d'argent. C'est pas du tout dans le cas dans l'économie sociale et solidaire. Si demain nous étions tous les deux partenaires dans une société, que j'avais 15 parts et vous 2 parts, nous aurions une voix chacun, nous aurions le même pouvoir. La deuxième chose, c'est que ce sont des organisations non lucratives, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer, au moment où on revend ses parts, faire la bascule, s'enrichir. Donc le mobile de l'entrepreneuriat n'est ni le pouvoir ni l'enrichissement. Et c'est ça la particularité de l'économie sociale et solidaire, et c'est une culture économique qui est aujourd'hui finalement non pas déconsidérée, mais largement ignorée dans le paysage, on va dire, institutionnel, politique, même chez les grands dirigeants économiques. Mmh. Et on a donc besoin, je crois, aujourd'hui, de faire évoluer cette culture économique pour améliorer la reconnaissance de l'ESS. Mais le but des acteurs de l'ESS, c'est pas qu'on reconnaisse qu'ils existent. Bon, tout ça, c'est pas, ils cherchent pas ce genre de gratification. C'est qu'ils veulent pouvoir se développer, développer leur modèle à armes égales. Parce que le paradoxe de l'économie sociale et solidaire, qui est souvent perçu comme une économie subventionnée, qu'on confond avec, quand on confond la non-lucrativité avec le non-marchand, voire même l'économie administrée, il y a beaucoup de confusion. En réalité, quand on regarde l'économie sociale et solidaire, elle n'a pas accès à des dispositifs de droit commun. La France réfléchit avec France Stratégie à la manière d'investir dans l'avenir. L'économie sociale et solidaire en est absente. L'ADEME programme des milliards d'investissements dans la transformation de notre modèle économique pour qu'il soit plus sobre sur le plan écologique. L'ESS en est absente. L'innovation sociale ne bénéficie d'aucun crédit d'impôt, tandis que l'innovation technologique sera subventionnée. Si j'ai le temps en une minute de prendre un exemple.
Allez-y.
Si demain je trouve une solution technologique pour accompagner des personnes qui seraient exposées à l'obésité, pour les aider à lutter contre l'obésité une fois qu'elle est arrivée, cette solution technologique serait soutenue par des investissements publics, par des crédits d'impôt. Si par contre, j'invente une solution, une innovation sociale qui prévient l'obésité auprès de publics qui sont des publics particulièrement exposés à la malnutrition, au déséquilibre alimentaire, eh bien l'innovation sociale, là, ne sera pas accompagnée, ne sera pas soutenue.
Alors, vous parliez justement...
L'objectif, c'est le droit commun, ouais. En fait. C'est que l'ESS ait accès à des dispositifs de droit commun au même titre que les autres entreprises.
Alors justement, vous parliez des autres entreprises. Il y a des entreprises qui sont d'autres entreprises dans le monde de l'entreprise, et je pense à l'entrepreneuriat social et au mouvement Impact France. L'année dernière, il y a eu des petits remous à l'arrivée de Pascal Demurgé et de Julia Faure à la tête d'Impact France, justement parce que les lignes étaient un petit peu brouillées entre l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire, parce que, quelque part, ces deux secteurs de l'économie ont une même mission, se dotent de même mission, travailler sur la lutte contre les discriminations, la lutte contre les précarités, qu'elles soient sociétales ou sociales ou environnementales. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que ça devient pour ESS France un concurrent direct ? Est-ce que c'est un partenaire naturel où il va falloir trouver des équilibres ? Comment va se passer cette cohabitation finalement entre l'entrepreneuriat social qui prend de plus en plus d'espace aujourd'hui, et on le voit avec une vraie volonté politique ? Est-ce qu'il faut davantage politiser ESS France ?
Écoutez, le mouvement Impact France, il est membre de ESS France. Donc, il a deux représentants au conseil d'administration et moi, je trouve que c'est une grande richesse que de les avoir au sein de ESS France. Premier élément de réponse par rapport au MIF. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut, il y a un impératif à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je m'explique. Si nous ne sommes pas capables d'embarquer davantage d'entreprises vers des modèles qui soient beaucoup plus sobres sur le plan écologique, nous ne parviendrons pas à organiser à temps le pivot indispensable de notre économie pour faire face au mur vertigineux d'un dérèglement climatique ou d'un réchauffement de la température globale au-delà des 2 degrés, 3 degrés, voire 4 degrés. Donc il faut faire pivoter toute l'économie. Et l'ESS n'y parviendra pas seule. Ce qu'elle doit faire, c'est quoi ? C'est construire, à partir de ses propres bonnes pratiques, des référentiels qui lui permettent de s'améliorer dans le domaine de l'impact social et de l'impact écologique, mais que ces référentiels-là soient utiles à d'autres pour se transformer. Toutes les entreprises ne deviendront pas non lucratives, mais certaines peuvent rester lucratives, mais viser des objectifs en termes d'impact écologique et impact social, et dont nous avons besoin aujourd'hui pour que l'économie tout entière soit capable de relever le défi du dérèglement climatique. Donc, ce que je crois, c'est que l'ESS et ESS France doivent être à l'initiative de coalitions, d'alliances plus larges, plus vastes que ce que nous représentons, pour viser l'intérêt général. Et l'intérêt général, en l'occurrence, l'urgence réclame que ce soit une transformation de nos modes de production et de nos modes de consommation. Donc nous devons, ESS France, accompagner les entreprises dites de l'économie conventionnelle qui ont conscience de la nécessité de se transformer.
Alors, dernière question avant de nous quitter. Le 12 juin prochain, nouveau conseil d'administration. Le mandat commence vraiment. C'est quoi le programme des 60 jours ? J'avais écrit les 100 jours, mais là, ça va être les 60 jours jusqu'au 12 juin. Pour commencer cette nouvelle mandature, quels sont les leviers, là, aujourd'hui, sur lesquels vous travaillez pour, à partir du 12 juin, changer ce changement d'échelle, puisque c'est un peu ça, si j'ai bien compris, le souhait et la volonté que vous avez dans votre mandat ?
De manière très prosaïque, je vais vous dire, on va avoir une discussion assez musclée avec le gouvernement en préparation de la loi de finances, parce que la loi de finances qui programme 20 milliards d'économies qui vont être réalisées dans le domaine des services à la personne, du soin, de la prise en charge des personnes âgées, du handicap, du secteur culturel ou du secteur sportif associatif, c'est-à-dire d'innombrables acteurs privés non lucratifs qui créent des services qui sont des services utile aux Français et auxquels ils sont attachés. Si ce choix est confirmé par le gouvernement, ce serait une catastrophe pour la cohésion sociale dans ce pays. Ce serait une catastrophe pour les personnes qui, en l'occurrence, et puis pour tous les acteurs de l'ESS aujourd'hui qui concourent à la cohésion sociale, parce que nous gérons des maisons de retraite, des établissements hospitaliers non lucratifs, des crèches, des clubs sportifs, des établissements culturels, que sais-je encore. Et donc, j'ai bien l'intention de commencer en allant voir Bruno Le Maire et en lui disant qu'on ne peut pas traiter ce secteur-là de l'économie avec une telle désinvolture. 20 milliards d'économies budgétaires, je comprends les objectifs qui sont ceux du gouvernement, je suis même prêt à en discuter. Voilà, et je rappellerai aussi que dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a un principe auquel Bercy devrait être attaché, c'est qu'on met à contribution les contribuables selon leurs facultés. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des contribuables qui peuvent contribuer davantage à la solidarité, à la cohésion sociale, plutôt que d'aller finalement affaiblir les solidarités à l'égard de ceux qui ont le moins déjà. Mmh. Et c'est le message que je tiendrai au ministre de l'Économie et des Finances et au Premier ministre dans les jours qui suivront ma prise de fonction.
J'avais une dernière question qui m'arrive, mais on est à quelques mois aussi des élections européennes. Quel est l'enjeu aujourd'hui pour l'économie sociale et solidaire en Europe? Quelle place la France peut-elle prendre dans cette ESS européenne, sachant que l'ESS n'a pas la même définition, et on en discutait avec quelques interlocuteurs, la non-lucrativité n'a pas forcément le même sens qu'on soit à Bruxelles, en Allemagne, en Italie, en France ou en Espagne.
Vous avez raison, mais il y a des formes d'économie sociale dans tous les pays européens. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a même une petite révolution copernicienne quand Bruxelles reconnaît l'économie sociale comme l'économie de la proximité et comme un des 14 écosystèmes industriels en Europe. Ça veut donc dire qu'il y aura des politiques publiques et il y a d'ores et déjà un plan d'action en faveur du développement de l'économie sociale. Donc l'idée, c'est de le nourrir, de faire en sorte que ça devienne une vraie politique pérenne. Donc moi, je vois plus de signaux montrant que l'Union européenne est en train de bouger dans le bon sens que le contraire, et cela me réjouit assez.
Merci beaucoup Benoît Hamon, et nous on retrouve tout de suite la chronique des entrepreneurs.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Nicolas Masson.
Voilà, et on retrouve Nicolas Masson. Bonjour Nicolas.
Bonjour Patrick.
Alors vous êtes vous enregistrez depuis la Martinique, il est très tôt le matin et je vous remercie de nous permettre de pouvoir bénéficier de votre réflexion. Et cette semaine, vous vouliez nous reparler de la destination universelle des biens. Vous disiez que ce principe était méconnu et insuffisamment aimé. Mais alors finalement, c'est quoi ce principe de la destination universelle des biens, Nicolas ?
C'est un des 6 principes de la pensée sociale chrétienne. C'est celui qui nous rappelle que Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, et que donc ces biens doivent équitablement affluer entre les mains de tous. Si on entend le commandement du Christ de nous aimer comme des frères, c'est une évidence. Qui pourrait dire vouloir suivre le Christ sans veiller à ce que ses frères reçoivent ce qu'il leur faut pour vivre une vie bonne?
Alors pourquoi dites-vous que ce principe est insuffisamment connu et aimé?
Parce qu'il frappe. C'est le contraste qu'il y a, voire l'opposition entre deux réalités. La première est que l'évidence de la destination universelle des biens nous dérange, l'idée de devoir partager nous bouscule, voire nous agresse. La seconde est que parmi les principes de la pensée sociale chrétienne, la destination universelle des biens devrait être celui qui nous mobilise le plus, car il est celui qui peut nous rendre le plus heureux. En effet, il nous invite à donner. Or, comme nous le rappelle Gaudium et Spes, l'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Qui n'a pas fait l'expérience de la joie de donner? Benoît XVI enfonce le clou. L'être humain est fait pour le don. C'est le don qui exprime et réalise sa transcendance, là est sa joie.
Mais ce principe qui est un principe moral, peut-il contribuer à transformer le monde? N'est-ce pas un peu utopique quand même, Nicolas?
Le commandement de nous aimer serait-il une utopie, Patrick?
Non, peut-être pas, non.
Il en est de même pour l'invitation de participer à la destination universelle des biens. Comme tous les principes de la PSC, c'est une direction à prendre. Ceci dit, je ferai 2 remarques. D'abord, nos systèmes politiques, économiques et moraux sont à bout de souffle. Pour le prouver, prenons l'enquête 2024 des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, 55% des répondants pensaient que nous allions changer de modèle économique. Qu'est-ce que 14 points de plus qu'il y a 2 ans? Il faut sans doute s'y préparer. Or, dans cette évolution, la pensée sociale chrétienne et tout particulièrement la destination universelle des biens, c'est le meilleur logiciel. Elle nous permet d'éviter l'impasse du collectivisme comme le scandale de la possession égoïste. L'originalité de la pensée chrétienne est que la distribution des richesses n'est pas qu'une affaire de loi, elle doit d'abord être le résultat de l'action de chacun de nous, de nos familles et de nos entreprises. La destination universelle des biens ne nous demande pas de nous séparer de ce que nous avons, bien au contraire, elle nous demande de le faire fructifier et d'en communiquer les bienfaits à ceux qui en ont besoin et d'abord à nos proches. C'est très concret. Chacun peut s'y mettre et j'ai la conviction que là est la source de la révolution économique à venir.
Merci beaucoup, Nicolas Masson. Je dois avouer que moi, j'ai compris la question de la destination universelle des biens au travers du chapitre 3 de Centesimus Annus, qui pose justement cette dualité entre la propriété privée et la destination universelle des biens. C'est assez clair. Je vous invite aussi à aller relire ce chapitre de l'encyclique de Jean-Paul II, Centesimus Annus. Merci beaucoup, Nicolas Masson, en tout cas, de nous avoir éclairé sur la destination universelle des biens. Et ça tombe extraordinairement bien justement avec notre émission, puisqu'on parle du partage de la valeur ajoutée avec RL Thévenon. Elle est notre invitée du dossier de l'Écho des Solutions. On fait une pause musicale dans l'Écho des Solutions, on se retrouve tout de suite après avec notre invitée du dossier. C'était A Place Like Home sur RCF, interprété par Thomas Kahn et Cass Hawkins. Vous êtes bien dans l'Écho des Solutions. On ouvre le dossier de cette semaine avec RL Thévenon pour évoquer la question du partage de la valeur ajoutée. C'est le dossier de cette semaine.
L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'Écho des Solutions de cette semaine. J'ai le plaisir de recevoir RL Thévenon, autrice d'un ouvrage avec son compère Richard Robert, Les nouvelles dimensions du partage de la valeur, trois pistes pour sortir d'un débat mal posé aux éditions des presses universitaires de France, plus connues sous le nom du PUF, des PUF. Bonjour RL Thévenon.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en droit, délégué général de l'Institut pour l'innovation économique et sociale, plus connu sous le nom de 2IES. On vous avait reçu il y a quelque temps pour parler de l'entreprise face aux risques identitaires. Aujourd'hui, on va parler de la valeur ajoutée de l'entreprise. La première question qu'on peut se poser, RL Thévenon, c'est quoi la définition du partage de la valeur? On en entend beaucoup parler dans les médias. Il faut partager la valeur, il faut associer les collaborateurs au capital, mais finalement on ne sait pas très bien ce que c'est que le partage de la valeur.
Tout à fait. C'est d'ailleurs le point de départ de notre réflexion que de constater que cette question de partage de la valeur est fondamentale. C'est une question qui renvoie à celle de la cohésion sociale. C'est une vraie interrogation quasi existentielle et qui suscite des colères, d'ailleurs, plus ou moins rentrées dans la société. Et donc un débat récurrent. Une formule quasi magique qui est utilisée aussi bien par les politiques que dans les médias et qui crée une sorte de bruit dont on ne sait pas très bien ce qu'il recouvre. Alors, tous les ans, on a un débat sur le sujet et qui se résout quasi invariablement par des dispositifs législatifs, des modifications législatives, des dispositifs de participation et d'intéressement dans l'entreprise, si je le fais court. Donc, c'est les primes Intel, les déblocages de Perco, etc. Donc, on vient bidouiller des outils de partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour répondre à une question qui dépasse le périmètre de l'entreprise et celui des salariés, qui est celui du partage de la valeur. Et c'est cette déconnexion entre l'ampleur et l'importance de cette question, de cette demande sociale légitime, de son importance pour la cohésion sociale, et les bricolages.
Est-ce que ça veut dire qu'on confond des fois la notion de valeur du travail, de création de richesse par les collaborateurs, les salariés d'une entreprise pour le territoire, mais aussi pour l'entreprise, et finalement la question de la rémunération, du statut social, de la place, du côté un peu psychologique finalement de ce que pourrait être le partage de la valeur?
Alors probablement, c'est-à-dire que la combinaison partage et valeur, quand on ouvre un dictionnaire, on voit bien que ça peut donner lieu à de très nombreuses combinaisons, parce que partage a deux sens. C'est d'abord partager quelque chose, le diviser, répartir. C'est aussi partager quelque chose au sens d'avoir en commun. C'est aussi un constat, la ligne de partage des eaux. On voit qu'il y a une répartition différente sans qu'il y ait une action de diviser. Et puis du côté de la valeur, c'est encore plus complexe, parce que c'est évidemment la valorisation, ce que vaut telle chose. C'est aussi la vertu, c'est le principe moral, c'est l'unité de mesure, etc. Et donc, quand on combine ces deux formules, on voit bien qu'on couvre des attentes qui sont très larges et qui ne peuvent pas se résoudre uniquement par un supplément de rémunération dans certaines entreprises. Donc, on a un débat que tout le monde sent très important, mais que le politique peine à résoudre et résout systématiquement sur le même terrain. Et c'est en ça que le débat est mal posé, et un débat mal posé correspond fatalement à une réponse inadaptée. Et ce faisant, en tripatouillant, entre guillemets, ces dispositifs de partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, au profit toujours des mêmes finalement, parce que ce sont les salariés de certaines entreprises qui vont bénéficier d'un gain de pouvoir d'achat, on passe à côté de tout le sujet qui effectivement celui de la valeur. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de la valeur pour nous? Et l'angle que nous avons pris avec Richard Robert, c'est un double focal. C'est-à-dire, premièrement, on a pris un champ très large. On a pris beaucoup de recul pour voir le sujet de façon très vaste. Donc, dans le livre, on liste un certain nombre de propositions et on ne fait que les énumérer parce que chacune d'elles mériterait un développement important. Et l'autre angle, en réfléchissant, parce que je vous avoue que tous les deux, on a longtemps débattu sur l'angle, parce que chacun, nous avions tous les deux une vision du sujet, c'est celui du travail. Et là, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que partager la valeur, ce n'est pas uniquement une question de rémunération. C'est bien au-delà. Et finalement, derrière cette demande de davantage de partage de valeur, se pose la question en amont de la création de valeur. Qu'est-ce qui aujourd'hui permet de créer de la valeur qu'on pourra partager? Et plus fondamentalement, en quoi le travail humain est-il aujourd'hui créateur de valeur? Et c'est ça aujourd'hui la question qui taraude nos sociétés et pour laquelle on n'a pas encore complètement de réponse.
Oui, et est-ce que cette question, on va rentrer dans une période d'élection et d'élection européenne, est-ce que cette question, ce questionnement sur le partage de la valeur est le même, on va prendre dans tous les pays développés, ou est-ce que la vision du partage de la valeur est différente suivant qu'on soit aux US, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Chine ou en Russie?
En Chine ou en Russie, je ne saurais pas répondre. Probablement, le problème se pose dans des conditions différentes.
En revanche,
dans le monde occidental, cette question je pense, traverse les sociétés dites développées. Mais elle va se poser avec une acuité plus forte en France, en raison notamment des choix économiques qui ont été faits il y a 40 ans, et qui font qu'on a, et puis de notre culture, du contexte très particulier français qui a toujours opposé capital et travail. Cette querelle d'opposition capital-travail occupe une place très importante en France. Alors, elle a été tranchée par les économistes, mais elle continue à habiter nos débats. Et parce qu'on a fait des choix économiques qui ont conduit, et on le voit, c'est dans les débats tous les jours, à une micardisation d'une partie de la société, une servicisation de notre économie. Et en fait, aujourd'hui, le paradoxe est le suivant, c'est qu'on a, sur le plan économique, un partage capital-travail, un partage de la valeur ajoutée entre capital et travail qui est stable, même si c'est contesté par certains, les économistes ont tranché, c'est stable. Donc, il n'y a pas de débat. Et en même temps, c'est une mauvaise nouvelle, il y a un débat parce que ça veut dire qu'en France, plus qu'en Allemagne, plus que dans d'autres pays, on a fait le choix d'une économie de main-d'œuvre peu qualifiée. Et donc, on peu créatrice de valeur. Alors, aujourd'hui, on est face finalement à deux modèles dont aucun des deux ne fait vraiment envie. Le modèle français, qui est un modèle qui tend vers une forme d'appauvrissement. Et puis le modèle opposé où le capital prend, est davantage créateur de valeur, beaucoup plus parfois jusqu'à se substituer au travail humain. Et c'est là, si on caricature les deux bouts, qu'on voit bien quel est celui des deux modèles qui fait rêver aucun. Et la piste que nous essayons de tracer dans notre ouvrage, justement, c'est l'entre-deux, celle dans laquelle le travail humain serait davantage créateur de valeur. Et pourquoi ? Parce que ça renvoie à l'importance que le travail occupe, l'importance du travail dans la société, l'importance du travail pour chacun d'entre nous.
Alors, je vous propose qu'on fasse, Erel, une petite pause musicale dans cet échange. On reviendra justement après cette pause musicale, on reviendra justement sur cette piste, sur ces chemins à explorer aujourd'hui et ceux que vous décrivez de manière assez remarquable dans votre ouvrage. On fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec vous, Erel.
Rocking and rolling, the leaves say I'm blowing, and I don't know what to do with you. We could talk for hours, pick the wildflowers. You can grab the red ones, and I'll grab the blue. We could write a song, and the world could sing along. We'll add all our troubles to the queue. We'll take the haunted to the forest. I write the verse, you write the chorus. We'll sing together forever, my dear, just us two. 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 So tell me where the wind blows. We'll roll down the windows. It don't matter where we're gone if you're by my side. Walking on our tiptoes and leaving smoke trails in the sky. Just know I'll make the drive. Scattered over the beaches, can't stay, sure as hell can't. go. So help me find where the peace is, tangled up in beanies and fleeces. We'll lay on back and wait for the snow. So tell me where the wind blows, and we'll roll down the windows. It don't matter where we're gone if you're by my side, we're walking on our tiptoes, leaving smoke trails in the sky. Just know I'll make the try, make the try, make the try.
C'était Onda, interprété par Willis Ray sur RCF. Et on continue notre émission avec RLT. Venons dans la deuxième partie de cet échange autour de la question du partage de la valeur ajoutée.
RCF, l'écho des solutions.
Voilà, et on retrouve notre invité du dossier de l'écho des solutions. RL, vous venez de poser un petit peu le débat juste avant cette pause musicale sur la question de la valeur ajoutée et en le centrant sur le travail, en montrant que finalement la question était mal posée depuis le départ, et donc vous nous proposez aujourd'hui des solutions avant de rentrer dans les trois niveaux de réponse que vous proposez dans cet ouvrage. Il y a quand même une question qui se pose, qu'on n'a pas abordée autour de la question du travail. C'est que finalement, plus ça va aujourd'hui, plus le travail, il est automatisé. On va parler, et on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. On parlait de la valeur du travail. Aujourd'hui, une personne avec l'intelligence artificielle peut faire le travail de 1000. Et avec qui il partage cette valeur ajoutée, si la personne avec qui il a partagé ?
Bien, c'est exactement une des questions qui nous hante aujourd'hui, qui hante nos sociétés. Pour certains qui... Si on regarde l'économie numérique, c'est l'acmé de ce phénomène, c'est-à-dire qu'elle vient siphonner le travail humain, siphonner l'économie réelle, et le modèle économique qui est vendu par les chantres les promoteurs de l'intelligence artificielle, c'est justement une très forte concentration de valeur entre quelques mains qui serait redistribuée sous forme d'un revenu universel pour des consommateurs qui n'auraient presque plus à travailler. Et c'est le modèle, un des modèles dystopiques qui nous est proposé aujourd'hui.
Ouais, et c'était justement ce que critiquait d'ailleurs Pascal de Murger dans son ouvrage L'entreprise du 21e siècle sera ou ne sera pas politique. Il disait justement sa crainte de populariser et de mettre en avant un revenu universel, ça voulait dire qu'on consacrait le fait qu'il y avait des populations qui allaient devenir inutiles. Il y aurait des cercles utiles, des cercles moins utiles et des cercles inutiles. Alors bien évidemment, tout ça, c'est un peu dramatique. On va parler un petit peu des niveaux de réponse. Il y en a trois dans votre ouvrage. Finalement, il y en a un au niveau de l'État, un niveau de l'entreprise et un plus anthropologique. Est-ce qu'ils sont au même niveau, les trois, ces trois niveaux de réponse sont au même niveau, ou il y a quand même un niveau politique qui est quand même plus important que les autres à actionner avant tout ?
En fait, ils sont de nature très différente. Ils sont complémentaires. L'idée pour nous, c'est de dire comment on met le travail humain en capacité de créer de la valeur. Et ça se joue à plusieurs échelons. Et nous avons identifié ces trois échelons, effectivement l'échelon macroéconomique, les politiques publiques qui permettraient collectivement de créer de la valeur. Alors là, on se situe sur le terrain national, le périmètre du pays. Celui des organisations, qu'est-ce qu'au sein de chaque organisation, entreprise, mais pas que, on peut faire pour que le travail soit créateur de valeur. Et puis, il y a un niveau de réflexion plus prospectif, plus culturel, plus anthropologique, qui est celui de l'interrogation sur les valeurs. Et en fait, si je reviens très rapidement sur ces trois niveaux, le niveau macroéconomique, alors à chacun de ces échelons, on pourrait imaginer beaucoup de propositions.
Bien sûr,
oui. Nous en sélectionnons deux ou trois qui mériteraient chacune d'être des thèses à part entière. Certaines d'ailleurs sont déjà documentées. Mais par exemple, sur la piste macroéconomique, il nous semble que la question de la réindustrialisation est importante. Alors aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est l'objectif du gouvernement. Ça semble Il faut néanmoins, il y a loin de la coupolette sur ce champ-là, c'est-à-dire qu'il faut complètement qu'on change de logiciel culturel face à l'industrialisation, mais on voit bien que si on y arrivait...
Qu'est-ce que vous voulez dire changer nos logiciels culturels sur la réindustrialisation? On voit aujourd'hui de jolies choses qui se font, par exemple dans le nord de la France, qui était une région sinistrée du point de vue de l'industrie, qui semble aujourd'hui, grâce au Gigafactory, grâce à une ambition politique, reprendre un peu du poil de la bête. Ça veut dire quoi changer nos logiciels?
Mais c'est continuer sur cette lancée, parce que pendant 30 ans, on a fait exactement l'inverse. On a désindustrialisé le pays, on est basculé vers une économie de servicisation. Donc on a perdu des compétences, parce que le travail dans l'industrie, c'est du travail qualifié, donc créateur de valeur, donc rémunéré. Ce sont aussi, pour ne citer que deux exemples, des sites industriels qui sont répartis sur le territoire français. Donc, on recrée de la valeur en différents endroits. C'est effectivement ce qui est en train de s'opérer dans le nord du pays. Mais on sent que, voilà, ce sont des pistes qui donnent de l'espoir, sachant qu'en plus, on est à un moment où on peut faire converger. Ça renvoie au troisième point. C'est-à-dire qu'il faut à la fois réindustrialiser, mais aussi en tenant compte de la nécessité de décarboner. Il faut évidemment une industrie qui soit propre, qui tienne compte des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux. Et donc, on a une fenêtre pour réinventer la façon de produire. Mmh. Et en y intégrant, évidemment, les technologies, l'intelligence artificielle, mais en faisant une place au travail humain. C'est ça. Et donc, pour ce point-là, si on prend cet exemple-là, ça fait appel à l'État qui va devoir mettre en place des politiques publiques. Donc, il y a d'une part des politiques fiscales, alléger la réglementation, enfin, il y a des tas de choses. Tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là ont beaucoup documenté. Mmh. Il y a ce que peut faire chaque entreprise à son échelle pour faire davantage de place
à l'humain,
à ses collaborateurs, à chaque salarié, à l'humain, en reconnaissant sa compétence, en reconnaissant son identité professionnelle, en lui donnant davantage d'autonomie pour que lui-même s'ouvre un avenir, puisse monter en compétence et le souci puisse être fier de ce qu'il fait, etc. Donc, c'est cette réflexion sur les attributions, sur la rétribution du travail qui va au-delà de la rémunération, sur la reconnaissance. L'entreprise a des champs de gisements de valeur à explorer. Et puis ça renvoie aussi au troisième point, à la façon dont nous envisageons, est-ce qu'on va donner de la valeur à ça, finalement. Est-ce que c'est ce point à la fois, il faut un nouveau récit.
C'est ça, il faut un nouveau récit et on le dit d'ailleurs assez souvent sur cette antenne. Je vais revenir sur deux points. Un que vous n'avez pas abordé, mais que je trouve intéressant parce que Benoît Hamon l'a abordé et on l'abordera très certainement avec notre invité Tony Bernard sur la notion de mesure d'impact. Il y a aussi la question des indicateurs. Le PIB n'est peut-être plus le bon indicateur aujourd'hui pour mesurer tout ça. Benoît Hamon nous le disait à l'instant. Le PIB, c'est bien, mais ça ne mesure partout et particulièrement sur le champ de la valeur ajoutée aujourd'hui. On le voit, hein, les entreprises aujourd'hui deviennent pour certaines des entreprises à mission, d'autres inscrivent leur raison d'être et on voit bien que la raison pour laquelle les collaborateurs se lèvent aujourd'hui, c'est plus forcément fabriquer une poêle, mais c'est fabriquer pour donner à manger à tout le monde, si je fais un résumé. Donc la question des indicateurs, vous la mettez aussi en exergue et c'est important. Pourquoi c'est si important que ça de mesurer avec des indicateurs différents?
Alors parce qu'en fait, on a le sentiment aujourd'hui, quand on observe, que il y a un déplacement de valeur, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'en avaient pas, et notamment deux choses qui sont le lien humain, la proximité. Ça semble avoir de la valeur, en tout cas aux yeux de chacun, mais ce n'est pas encore valorisé. C'est-à-dire que ce n'est pas encore aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique. Et il en va de même pour le soin porté à la planète. On tâtonne. Alors, il y a deux démarches pour faire ça. Il y a une démarche top-down, c'est-à-dire la contrainte, les normes. C'est le sens des directives européennes récentes où on invite les
CSRD,
entreprises
bien sûr,
à... Voilà, où on invite, où on incite, où on contraint les entreprises à renseigner une batterie d'indicateurs extra-financiers. Donc, on essaye de faire rentrer dans les logiciels de l'entreprise, dans les objectifs de l'entreprise, ces dimensions-là. Et on a, de l'autre côté, c'est la démarche sur laquelle nous avons souhaité mettre la lumière, qui est tous les initiatives prises par des entreprises souvent petites, qui sont très peu nombreuses hein, à l'échelle du pays,
territoire,
voire du monde, du territoire, mais qui testent des modèles économiques permettant de créer différemment la valeur et de la partager différemment, de l'activer plutôt que de se l'approprier. Et en fait, tous ces signaux faibles convergent, c'est-à-dire que les entreprises bougent parce qu'elles sont aussi poussées, mais la contrainte à la CSRD, etc., c'est pas toujours productif parce qu'en fait, ça va pousser les entreprises dans des logiques de reporting à outrance. On crée parfois un vernis qui empêche de prendre des initiatives. Donc, c'est une question d'équilibre,
revers,
mais quand on prend du recul.
C'est ça, c'est le revers de la médaille, c'est les équilibres qui sont difficiles à trouver parce qu'en effet, la contrainte implique de travailler, mais elle contraint aussi dans l'agilité et la flexibilité.
Exactement. Et en fait, c'est-à-dire que pris dans le détail, ça va être peut-être complètement contre-productif. Et d'ailleurs, le reporting à outrance fait partie des mots qui minent le travail. Et qui dégoûte les gens du travail, qui ont l'impression qu'ils sont des... Mais quand on prend de très haut, de très loin plutôt, on voit bien que tout ça sont des tendances. Alors ça va très lentement, mais on modifie progressivement, on cherche et on essaye d'équilibrer contraintes, initiatives pour aller vers une tenter de valoriser davantage ce qui... Et là, où on bute, c'est effectivement les normes, les normes comptables.
On arrive au terme de cet échange, Erel, c'est passionnant, mais de toute manière, si nos auditeurs veulent en savoir plus, ils vont se référer à votre ouvrage que j'ai trouvé absolument passionnant. Et puis, il y a ce côté un petit peu décalé de prendre aussi un peu les contre-pieds. Si on devait poser un mot de conclusion sur cet échange, quel serait-il pour vous, Erel Thévenon?
C'est vraiment cette question sur la façon de créer, de rendre le travail humain créateur de valeur. On sent qu'on est aujourd'hui sur... C'est un momentum. On voit bien qu'on peut basculer dans le pire et le meilleur des mondes. Mmh. Et c'est cette réflexion à laquelle tout le monde peut contribuer, aussi bien chacun à sa place que les organisations et les États.
Mmh. Merci beaucoup, Erel Thévenon, d'avoir été notre invité du dossier de l'Éco des solutions de cette semaine.
Merci. Merci à vous pour cette invitation.
On continue tout de suite avec Tony Bernard, délégué général du think tank Impact Tank, qui a tenu son sommet le 18 avril dernier, c'est-à-dire jeudi, au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Et bien justement, on va parler de mesures d'impact. Il y a une vraie logique dans cette émission. Merci encore, Erel. À très bientôt. Au revoir pour un prochain ouvrage. On sera ravis de vous retrouver. Et comme on a un peu de temps dans l'écho des solutions cette semaine, eh bien je vous propose de retrouver Enzo, juste quelqu'un de bien. Et juste après, on retrouvera une personne qui est certainement très très bien. Il s'agit de Tony Bernard. Il est le délégué général de l'Impact Tank. Avec lui, on évoquera ce sommet qui s'est tenu au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, il y a quelques jours. Mais pour le moment, Enzo, juste quelqu'un de bien sur RCF.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. M'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. aucune réponse, je n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam.
C'était Enzo Enzo, juste quelqu'un de bien sur RCF. C'est quelqu'un de bien que je vous propose de retrouver. Il s'agit de Tony Bernard. Il est notre invité des 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, je suis avec mon invité des 7 minutes pour changer le monde. Pour clore l'émission de cette semaine, il s'agit de Tony Bernard, délégué général de l'Impact Tank. Bonjour Tony.
Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va évoquer ce sommet où vous avez réuni les acteurs des associations, des fondations, des entreprises, les pouvoirs publics, des ministres, dont le premier, pour évoquer justement ce rapport. Comment mesurer l'impact social et l'ancrage territorial des entreprises? Est-ce à dire, Tony Bernard, que le PIB, cet indicateur qui est quasiment un dieu dans l'économie internationale, est mort ou en tout cas qu'il est en passe d'être remplacé?
Non, le PIB n'est pas mort et on ne fait pas la promotion de la décroissance, mais simplement d'une croissance différente. Vous disiez en effet qu'on a eu la visite de beaucoup de membres du gouvernement, dont le Premier ministre, et nous étions honorés de leur présence. Et c'est ce qui montre l'engagement des pouvoirs publics, comme aussi des autres acteurs qui étaient au rendez-vous autour de l'impact des activités économiques.
Alors la question qui est intéressante et qui a été soulevée et qu'on a déjà soulevée dans l'écho des solutions et que je trouve absolument passionnante dans les échanges que vous avez pu avoir, c'est cette notion de territoire et de faire finalement cette alliance entre les pouvoirs publics, les besoins du territoire, les entreprises et j'ai envie de dire les catalyseurs territoriaux, c'est-à-dire ceux et celles qui agissent sur le terrain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez constitué une banque de données, de mesures d'impact pour voir comment réellement le territoire se développe et se développe durablement.
Oui, tout à fait. L'enjeu des travaux qu'on mène au sein de l'Impact Tank et le sujet d'ailleurs du sommet de cette année rejoint le sujet de votre émission, puisque c'était « Changer le système, changer le monde ». Comment changer le monde? C'est en changeant les normes qui font le monde, et en particulier à partir de la mesure d'impact de l'action des entreprises dans les territoires, puisque pour changer le système, tout se joue au niveau des territoires. Et parmi les conclusions de notre travail et du rapport que nous avons remis à la ministre Olivia Grégoire hier, il y avait la question des coopérations entre tous ces acteurs qui travaillent trop souvent en silo sur des sujets pourtant en commun, entre des entreprises, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs locaux, des collectivités territoriales, des chercheurs qui travaillent chacun sur la cohésion sociale, sur la création de liens sociaux dans les territoires, sur l'accès à la santé, sur la mobilité. Et finalement, qui ne parlent pas aujourd'hui un langage commun. Et la création d'indicateurs partagés de mesures d'impact, c'est d'abord la
capacité
de réunir autour d'un langage commun.
C'est ça. C'est important le langage commun. On l'avait évoqué avec Laurent Lély il y a quelques temps, au début de cette année d'ailleurs, dans l'écho des solutions, sur cette capacité à mettre derrière un même mot des réalités qui parfois sont différentes. On sait bien qu'une des grosses difficultés parfois, ce n'est pas la décision politique, parce que la décision politique, elle peut en effet être proactive, mais parfois, ce sont les techniciens qui sont derrière. Et les techniciens ne font pas de l'obstruction, mais les techniciens n'ont pas souvent les véhicules à disposition pour pouvoir agir. Comment on peut, avec ces indicateurs de mesure d'impact, aussi agir sur ces véhicules qui parfois manquent aux techniciens, qui seraient tout à fait d'accord pour pouvoir agir? Et on a simplement envie de dire, à l'époque, on n'avait pas de critères RSE dans la commande publique. Aujourd'hui, c'est fait. Mais à l'époque, il n'y en avait pas et on ne pouvait pas agir sur le territoire.
Les techniciens, les chercheurs travaillent évidemment au sein de l'Impact Tank, mais la mesure d'impact, il ne faut pas le voir uniquement comme un sujet de technicien, justement. Quand on est un think tank, la mesure d'impact, elle a un vrai rôle politique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de fédérer des acteurs très différents autour de mêmes indicateurs, mais c'est aussi et surtout à l'heure de l'entrée en vigueur de la directive européenne CSRD hein, sur le reporting extra-financier des entreprises, qui est parfois vu comme un poids supplémentaire dans le quotidien, des entreprises. La mesure d'impact, elle permet de révéler ce qui compte vraiment dans l'action d'une association en faveur de l'inclusion numérique ou dans l'action d'une collectivité pour l'insertion professionnelle des jeunes. Ce qui compte vraiment, c'est pas tant les moyens qu'on va y mettre, c'est évidemment un bon indicateur, le nombre d'heures de formation, moyens qui sont mis à la disposition, mais ce qui va compter vraiment, c'est quel impact ça peut avoir sur la confiance en soi, sur le fait de renforcer l'autonomie des populations, sur le fait de renforcer le bien-être aussi, d'augmenter le bien-être d'un quartier, d'une région ou d'un pays.
Est-ce que ça veut dire finalement que ce que vous dites, ça veut dire que c'est cette mesure d'impact, il faudrait faire une CSRD des territoires, c'est-à-dire ce qu'on a imposé au monde de l'entreprise, se l'imposer d'une certaine manière au niveau du territoire pour voir en quoi l'impact politique, l'impact économique, l'impact associatif va réellement, durablement développer le territoire ?
Je suis pas certain de vouloir parler de contraintes. D'abord, les entreprises s'engagent déjà beaucoup en réalité.
Mais elles ne le savent pas toujours.
Absolument, tout à fait ça. Elles s'engagent déjà beaucoup, elles ne le savent pas toujours parce que la mesure d'impact n'est pas encore suffisamment partagée dans le monde économique. Alors évidemment, nous on fait notre travail et ça avance, mais l'idée n'est pas tant la contrainte que de permettre dans les territoires de pouvoir mesurer concrètement ce qu'on fait, pour pouvoir d'ailleurs arrêter des programmes qui n'ont pas l'impact qu'on imagine et pouvoir aussi passer à l'échelle des projets qui remplissent les objectifs d'impact. Je pense aussi que il y a un vrai sujet à pouvoir utiliser la mesure d'impact comme un outil de la transition juste.
Alors, dernière question avant de nous quitter, 18 avril, un sommet, vous avez remis un rapport au gouvernement. La suite, c'est quoi? Pour vous, Tony Bernard et l'Impact Tank?
La suite, c'est de continuer à s'engager et c'est aussi de favoriser le changement de système, puisque c'était le sujet. C'est-à-dire que, je le redis, il ne s'agit pas de mesurer les effets positifs de tel ou tel programme d'association, de telle ou telle politique RSE d'une entreprise. L'objectif à l'Impact Tank, c'est de pouvoir favoriser le changement de paradigme, c'est de pouvoir utiliser la mesure d'impact pour non pas seulement mesurer les réponses aux besoins sociaux et environnementaux, mais comprendre pourquoi est-ce que ces besoins persistent. On ne changera pas le système si on s'attaque seulement aux symptômes. Donc la suite, c'est de pouvoir accompagner une transformation en profondeur qui agit sur l'existence des besoins sociaux et environnementaux, et pour cela, évidemment aussi utiliser une des méthodes de mesure d'impact qui sortent des référentiels européens standardisés, chiffrés, même si évidemment ce sont des boussoles intéressantes et importantes, mais elles ne suffisent pas parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on résout le vivre ensemble, la cohésion sociale à des chiffres ou même à des euros.
Merci beaucoup Tony Bernard d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il est temps de se quitter pour mieux se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr. N'oubliez pas, tous les vendredis à 17h et en FM et en DAB+ désormais à 14h tous les samedis. Bonne écoute des programmes de RCF. À très bientôt. Au revoir.